Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Un scrutin sans suspense, une formalité pour le maître du Kremlin, réélu dès le premier tour de la présidentielle, avec plus de 87% des voix et un taux de participation record de 74%.
Je suis si heureuse. Il exprime le sentiment du peuple. Il écoute le peuple. Il travaille pour lui.
À 71 ans, Vladimir Poutine est réélu pour 6 années supplémentaires. Hier soir, il a remercié les Russes avant de promettre que le pays tiendra tête à tous ses adversaires.
Les résultats des élections, c'est la confiance de la part de qui ne voulait pas nous épouser.
Des opposants ont bien tenté de faire entendre leur voix. De l'encre a été déversée dans des urnes, des cocktails Molotov lancés contre des bureaux de vote, des protestations réprimées. D'autres électeurs ont eux choisi de protester en silence contre Vladimir Poutine en votant dimanche à midi. Cet appel avait été lancé par la veuve de l'opposant Alexei Navalny. Elle a elle-même voté à Berlin, à l'ambassade de Russie. Déterminée à reprendre le combat de son mari contre Vladimir Poutine.
He is a killer, he is a gangster, he is the person who brought my country to the war.
Au lendemain du scrutin, Berlin, Londres, Paris et le chef de la diplomatie européenne dénoncent un simulacre de démocratie.
Ces élections n'ont pas été libres et équitables. Elles se sont déroulées dans un contexte de répression et d'intimidation.
Mais dans le même temps, des partenaires de Moscou, la Chine, l'Iran ou encore le Venezuela et l'Inde félicitent Vladimir Poutine. Alors l'ancien agent du KGB est-il devenu plus indéboulonnable que jamais? Pourquoi est-il aussi populaire en Russie? Ses adversaires doivent-ils redouter ce président tout-puissant?
Trois invités qui en connaissent un rayon sur Vladimir Poutine. Igor Gran, bonsoir, vous êtes écrivain, bonsoir. Fils de dissident, je l'ajoute. Vous êtes l'auteur de Z comme zombie, paru chez POL en 2022. Votre dernier ouvrage, L'entretien d'embauche au KGB, vient de paraître chez Bayard Presse, c'est ça?
Exactement.
Et selon vous, on ne peut accorder aucun crédit à ces résultats décidés directement par le Kremlin, mais même si les chiffres sont truqués, Vladimir Poutine est soutenu par une majorité de Russes, ajoutez-vous. Ce qui leur plaît, c'est le fait qu'il montre les muscles vis-à-vis de l'Occident. À côté de vous, Claude Blanche-Maison, bonsoir monsieur, ancien bonsoir. Ambassadeur de France en Russie. Vous l'étiez de 2000 à 2003. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Vivre avec Poutine » aux éditions Temporis. Selon vous, le discours d'Emmanuel Macron instaurant un rapport de force avec la Russie a fortement irrité Vladimir Poutine. Une fois qu'il aura digéré, dites-vous, l'Ukraine, il aimerait passer au pays suivant avec la Moldavie, qui n'est pas membre de l'OTAN. Et enfin, Patricia Alémonière, bonsoir madame, grand reporter, spécialiste des questions internationales. Votre dernier essai, Au cœur du chaos, est paru chez Arto. Selon vous, ces dernières années, l'énorme propagande du Kremlin, avec des moyens colossaux, a fonctionné parfaitement. Elle a façonné la population russe autour du nationalisme, du culte de l'homme fort, donc Vladimir Poutine, et de la haine de l'Occident. Les oppositions, vues ce week-end, restent très minoritaires. Oui, évidemment, on va en reparler, mais d'abord, donc, le chiffre oui. du jour.
Après 2000, 2004, 2012 et 2018, Vladimir Poutine a donc été réélu hier pour la 5e fois jusqu'en, a priori, 2030, hein, donc 30 ans de pouvoir, davantage, possiblement, que Joseph Staline, le dictateur communiste, avait sévi 25 années. Igor Gran, les chiffres ont été incontestablement truqués, bidonnés, mais est-ce que ça reflète tout de même une popularité de Vladimir Poutine dans l'opinion russe ?
À mon sens, oui, hélas. C'est-à-dire que vous pouvez... Alors, ils ont truqué les chiffres ont été inventé, en grande partie à cause du vote électronique. Ils ont mis en place une sorte de boîte noire où vous votez électroniquement et puis ensuite, eux, en fait, marquent ce qu'ils veulent à la fin. Ils ont été bidonnés aussi parce qu'il n'y avait pas de candidat. Enfin, tout ce qu'on sait, quoi. C'est une énorme farce.
Pas d'autres candidats que lui, pas de candidat d'opposition.
Aucun débat, bon. Mais le fond du problème, c'est que la Russie, je dirais de base, les Russes de base, les gens simples, en grande partie soutiennent Poutine. Et si sans trucage, je dirais, ou avec un minimum de trucage, ils l'auraient obtenu, je ne sais pas, 62% sans aucun problème.
D'accord. Patricia Lemonnier. En même temps, on a vu récemment tous ces Russes aller déposer des fleurs sur la dépouille de Navalny, ces files d'attente, on les a vus dans les rues. Et là, on s'est dit, est-ce qu'on s'est leurré qu'il y avait des Russes opposants à Poutine et peut-être se manifesteraient-ils pendant l'élection? Est-ce que, on s'est bercé d'illusions?
Qui étaient ces Russes, effectivement, qui sont venus déposer ces fleurs? Ce n'est pas la grande majorité de la Russie qui va, nous n'oublions pas, de notre Europe à nous occidentales jusqu'à la Chine. La Russie, c'est un pays immense, 12 faisceaux horaires. C'est une population qui était aussi maintenue, il ne faut pas, dans une forme d'ignorance, de culte de la personnalité. Avant Poutine, il y a eu le stalinisme, il y a eu la folie autour de Boris Yeltsine, où c'était le désarroi le plus total, la crise économique. Donc cette population massivement n'attendait que la stabilité, que l'ordre. Poutine donne cette stabilité et cet ordre. Et donc par rapport à cette espèce de contrat social qui est né entre Vladimir Poutine et sa population autour de ce nationalisme, de cet ordre, eh bien l'opposition est minoritaire. On se fait plaisir. Je ne dis pas qu'il faut la sacrifier, qu'il faut la juger comme infime. Et parce qu'elle court des dangers, et un danger de mort, comme on l'a vu avec Navalny. Mais il ne faut pas rêver, il ne faut pas prendre nos désirs pour des réalités, je crois.
Oui, Claude Blanche-Maison, sur ce point, vous qui avez vécu là-bas, vous avez déjà vu en son temps, certainement, des magouilles électorales.
Oui, mais à l'époque, il y avait sans doute beaucoup de tricheries, mais il y avait quand même des partis libéraux
et qui
pouvaient
se
présenter, des gens comme Nemtsov, etc., qui ont tous été éliminés, soit envoyés à l'étranger, soit envoyés en prison, soit tués.
Là, il y avait trois candidats fantoches.
À l'époque, Poutine, dans ses premières élections, faisait 55%, quelque chose de ce genre. Et il y avait un vrai débat, puisqu'il y avait une opposition. Alors aujourd'hui, je crois que le vrai problème, c'est celui-là, c'est que le Kremlin a réussi à éliminer tous les opposants, en les laissant partir à l'étranger, d'ailleurs. Vous voulez partir à l'étranger? Très bien, ça nous débarrassera. En les mettant en prison, ou en les tuant, s'ils résistaient un peu trop. Et donc, les Russes, qui veulent en effet la stabilité, n'ont pas d'offre politique alternative. Quelle est l'alternative? On ne va pas voter pour l'un des trois fantoches qui se présentait à côté de Poutine. Enfin, certains l'ont fait, et c'est probablement d'ailleurs les scores qu'ils ont obtenus en dessous de 5%, c'est peut-être le produit de l'ingénierie au Kremlin qui règle tout le fonctionnement de la politique, y compris les élections, puisqu'il y a des spécialistes au Kremlin qui travaillent...
Ingénieurs du chaos.
Qui travaillent, si j'ai bien compris, sous les ordres de Kirienko, c'est-à-dire le numéro 2 de l'administration du Kremlin, et qui, parce que Kirienko, il est chargé de la politique intérieure. Moi, je l'ai connu à mon époque, il était libéral, parce qu'on peut aussi changer avec le temps. Et peut-être que Poutine a aussi changé avec le temps.
Alors ça nous amène à quelque chose qu'on va vous soumettre, une archive qui date de 2004, pour voir s'il y a eu quelque chose comme un phénomène d'usure, si le père de la nation avait une autre image en 2004. Regardez, les faits parlent d'eux-mêmes.
C'est une élection à la soviétique qui attend la Russie. Et cela ne fait aucun doute, Vladimir Poutine restera au Kremlin à l'issue de la présidentielle demain.
Leurs retraites ont été augmentées et surtout elles sont payées en temps et heure. Pas comme à l'époque de Boris Yeltsin, son prédécesseur, dit Maria Antonovna. À 75 ans, elle est fière de son président.
Je l'aime simplement. Il s'exprime bien, on le voit à la télévision, avec les enfants, avec les fleurs. Il voyage partout, il rencontre les personnes âgées.
Alors Poutine dictateur? Le contraire, dit Valérie Petrovitch. Selon lui, le président russe a tant à faire qu'il devrait rester au pouvoir pendant au moins 20 ans.
C'est un homme qui veut que l'ordre règne autour de lui. Il se bat pour ça. Ce n'est pas comme Yeltsin.
Igor Granizon était entendu, parce que 20 ans plus tard, il est toujours là. C'est aussi ce qu'on entend, que Poutine a apporté cette stabilité, cette autorité, après, c'est vrai, des années qu'ils ont mal vécu, notamment sur Yeltsin.
Oui, le mot-clé, c'est stable. La stabilité, on l'a tous dit. C'est affiché sur les affiches, d'ailleurs, électorales. Là, on l'a vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que surtout que rien ne change en été. Ce n'est plus par référence à Yeltsin. Là encore, on venait de connaître Yeltsin, le type qui était bourré, dont on avait honte. Bon, et là aujourd'hui, c'est juste la stabilité, c'est-à-dire recevoir tranquillement ma pension de retraite qui est de 250 euros par mois, et ça me suffit, surtout que rien ne change.
Et la fierté aussi, dont on sait qu'elle est très importante dans la construction de la Russie.
La fierté, c'est qu'avec mes 250 euros par mois, certes, c'est difficile, mais au moins, mon pays fait peur à tout le monde.
Donc, il a restauré ce sentiment de fierté nationale.
Nous sommes ceux devant qui l'OTAN tremble.
Alors, ce double, par rapport à cette question de fierté nationale qui fait trembler le reste du monde, d'une sorte de guerre culturelle, on va en parler avec vous, Anna, des discours extrêmement conservateurs de Vladimir Poutine, de plus en plus fréquents.
Oui, vous le disiez tout à l'heure, les choses changent. L'ère du Poutine libéral est terminée du début des années 2000. Aujourd'hui, il remet les valeurs traditionnelles au centre de sa politique. L'année 2024 a d'ailleurs été déclarée année de la famille, car le pays fait face à une baisse de la natalité sans précédent. D'ailleurs, le 8 mars, lors de la Journée internationale de la femme, il a tenu à rendre un hommage à toutes ces femmes en leur disant « Vous avez certainement le pouvoir d'améliorer ce monde avec votre beauté, votre sagesse et votre générosité, mais surtout avec le plus grand don que la nature vous a offert, le fait d'avoir des enfants. » Alors, au mois de décembre, il avait déjà proposé de raviver les traditions selon lesquelles, je le cite, nos grands-mères et arrière-grands-mères avaient 7 ou 8 enfants. Mais on observe dans le même temps une remise en question de plus en plus importante du droit à l'avortement, avec des représentants des mouvements conservateurs qui essayent même de modifier la loi en imposant entre autres l'accord du mari pour pouvoir avorter. Et puis, Vladimir Poutine entend aussi s'opposer fermement aux valeurs occidentales qu'il juge décadente. Voilà ce qu'il disait le mois dernier en s'adressant à la nation. « Nous voyons ce qui se passe dans certains pays où les normes de la morale sont consciemment détruites, des peuples entiers sont conduits à l'extinction et à la dégénérescence. » Alors la communauté LGBTQ est forcément ciblée. Il y a quelques mois, les députés russes ont adopté une loi qui visait les personnes transgenres. Plus d'opérations chirurgicales ni de thérapie hormonale, plus le droit d'adopter. Et fin novembre, une nouvelle loi a été votée. Cette fois-ci, elle interdit la propagande de relations sexuelles non traditionnelles et donc ça vise directement les personnes homosexuelles. Claude Blanche-Maison, est-ce que cette politique ultra-conservatrice, les Russes y adhèrent ou est-ce que c'est simplement pour contrôler la population ?
Alors, il y a des précédents dans l'histoire parce que si on voulait résumer ça, ça ferait travail, famille, patrie.
Patrie, tout à fait.
Évidemment. Et pour ce qui est de la famille...
Slogan pétainiste.
Absolument. Entre autres. Et pour ce qui est de la famille, je pense que Poutine ne manque pas d'air parce que lui-même n'est pas véritablement un exemple de comportement en ce qui concerne la famille. On ne sait pas très bien...
On sait qu'il a divorcé de sa première femme.
On ne sait pas très bien avec qui il dîne le soir actuellement. On ne sait pas très bien s'il a eu des enfants avec une deuxième femme. Ça amuse beaucoup dans les conversations, naturellement, à Moscou ou ailleurs. Et quant au reste, la lutte contre les homosexuels, c'est pareil, parce qu'il y a autant d'homosexuels au Kremlin qu'il y en a ailleurs, évidemment. Donc c'est totalement absurde, c'est une hypocrisie totale.
C'est une politique de société.
La société russe a évolué, et il ne peut pas la rattraper par les Basques, et avec des lois régressives, la faire régresser, ça ne marche pas. Si vous expliquez aux femmes qu'elles ne pourront plus avorter, évidemment, elles continueront à avorter, parce qu'il y a toute l'histoire de la Russie, y compris de la Russie soviétique.
Le premier pays au monde à avoir autorisé l'IVG
bien sûr.
En 1920.
Et donc la société a évolué, et il n'est pas possible de la faire régresser dans telles conditions, notamment en ce qui concerne la condition féminine. Et là, je crois, ça, c'est une des failles probablement du système Poutine, parce qu'on a dit qu'il avait la confiance de la population. Oui, mais c'est une population résignée, parce qu'elle n'a pas d'autre choix, elle n'a pas d'autre possibilité.
Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle attend son heure, cette population ?
Ça peut craquer un jour, on ne sait pas quand, mais il faudra qu'il y ait quelque chose qui permette à ce mécontentement de se cristalliser, donc une offre politique, bien entendu, et ça craquera forcément un jour. Ça peut aussi craquer de l'intérieur, ça peut être une révolution de palais, quelqu'un qui tout d'un coup considère que Poutine mène le pays à sa perte, ce qui est vrai, et qu'il faut arrêter ça, parce que sinon ils vont tous sombrer.
C'est ce qu'a tenté Prigogine, et ça n'a pas marché, visiblement, Patricia Lémonière. En même temps, c'est vrai que c'est concomitant tout cela avec la guerre en Ukraine. l'Ukraine. Donc, Vladimir Poutine le fait à dessein, c'est-à-dire il se sert aussi de ce qu'il fait en Ukraine pour revenir sur les valeurs décadentes de l'Occident.
Oui, alors l'Occident décadent est décrié, ce qui permet effectivement de construire effectivement un récit de Poutine, qui est aussi vendu à ce qu'on appelle aujourd'hui à tort le Sud global, puisque dans le Sud global, il y a des gens du Nord. Et c'est donc toute cette machine de propagande. Et le régime se solidifie et cherche à se solidifier avec cette guerre patriotique. Là encore, c'est la grandeur. Là encore, c'est l'Empire. On va même au-delà de bien avant Staline, on va jusqu'au tsar. Donc c'est ressusciter, c'est reconstruire cet empire, et c'est ce qui inquiète effectivement aujourd'hui nous, les pays occidentaux en particulier, et l'Europe tout particulièrement, puisqu'il y a des minorités russophones dans bon nombre de pays, et que l'on sait que, que le souci de Poutine, c'est de protéger, dit-il, ces minorités russophones.
Et pensez donc, à la Moldavie ou à la Géorgie, entre autres.
Que peut-il faire après cette victoire? Parce que cette victoire-là, est importante. Mmh. Le chiffre qu'il a lui permet aujourd'hui d'imposer un autre rythme. 97%. Et cet autre rythme peut être pousser très fort sur l'Ukraine et enfoncer le front, ou alors, et après, se permettre quelques incursions pour tester notre fameux article 5 de l'OTAN.
Ah, on va y revenir, mais juste une question. La zombification des esprits dont vous avez beaucoup parlé avec ô combien de talent, on constate que c'est une génération maintenant, depuis que Poutine est au pouvoir, qui est confrontée à cette zombification. C'est énorme. Et à travers un révisionnisme historique dans les manuels scolaires et dans tous les livres qui tordent et qui font du négationnisme par rapport à l'histoire.
Oui, absolument. Et alors, on pense souvent que c'est la propagande qui met ça en place. C'est-à-dire que les gens regardent, à force de regarder les programmes, sont formatés. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait vrai non plus. C'est-à-dire que, par exemple, YouTube n'est toujours pas censuré en Russie. YouTube, c'est 45 millions de gens, de Russes, qui regardent chaque mois YouTube. Et sur YouTube, bah, vous avez Zelensky, vous avez tout un tas de choses parfaitement... Vous avez des reportages sur Boutcha et les massacres,
et
les
crimes de guerre. Et pourtant...
Et alors, que font-ils sur YouTube, ces Russes? Bah, ils regardent, comme nous, les recettes de cuisine, des films qui les font rire, etc. Et ils ne veulent absolument pas voir ce qui se passe juste à côté, ce que commettent leurs forces armées en Ukraine.
Et pourquoi ils ne veulent pas voir?
Ah ben parce que c'est à partir de ce moment-là, c'est difficile. Si vous admettez, si vous regardez ces crimes, vous devez prendre parti. Vous ne pouvez plus prendre une certaine distance par rapport à ce qui se passe.
Et puis il y a la formation et la prise en main dès l'école, dès le plus jeune âge. Il ne faut pas oublier tout ce qu'est le système scolaire que je pense vous décrivez très bien, qui formate totalement les cerveaux. Et quand vous avez un cerveau formaté, vous ne supportez pas la différence. Donc vous restez là où vous êtes.
Et vous n'avez plus d'esprit critique.
Voilà. Les appétits, alors, vous en parliez, hein, Patricia Lemonnier, de Poutine ne s'arrêteront peut-être pas à l'Ukraine. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. On va l'écouter.
Si la Russie gagne cette guerre, la crédibilité de l'Europe sera réduite à zéro. Est-ce que vous pensez que les Polonais, les Lituaniens, les Estoniens, les Lettons, les Roumains, les Bulgares pourraient une seconde rester en paix? Et je ne parle même pas de la Moldavie qui, à la seconde, serait menacée.
Claude Blanche-Maison, il y a des plans internationaux. On peut penser que Poutine voit déjà au-delà de l'Ukraine? On l'a peut-être même déjà vu avec la Moldavie.
Oui, enfin, il n'en a pas fini avec l'Ukraine, parce que finalement, son offensive, elle ne va pas très vite, à part Avdiivka. Le front est plus ou moins stabilisé. Et il subit beaucoup de dommages en mer Noire. Il ne peut plus circuler comme il veut en mer Noire. La moitié de la flotte de la mer Noire est hors d'usage. On ne peut pas ramener de nouveaux bateaux de guerre, parce que c'est le Turc qui contrôle les détroits. Et puis, les drones, quand même, font un peu de dégâts, ou en tout cas inquiètent la population, au-dessus du territoire russe. Donc, il a à finir le travail.
Il ne pourrait pas ouvrir un autre front, justement? Non, vous ne pensez pas.
Pas maintenant. Il veut finir l'Ukraine, mais évidemment, comme il a besoin aussi de donner du temps à son armée pour souffler, puisqu'elle est probablement à bout de souffle, avec 300 000 morts en 2 ans, c'est énorme. Par rapport à la guerre en Afghanistan qui a duré 10 ans, c'est énorme. Donc il est obligé d'obtenir une sorte de répit. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on agite de ci, de là, l'idée d'un cessez-le-feu, peut-être même au moment des Jeux Olympiques, etc. Alors, on m'a demandé hier si c'était une bonne idée. J'ai répondu, il faut demander à Zelensky. C'est pas nous qui sommes en guerre avec
Zelensky,
la Russie.
C'est Zelensky qui supplie les États-Unis de voter l'aide à l'Ukraine. Il dit qu'elle est d'importance critique.
Mais si Poutine veut un cessez-le-feu, qu'il le demande à Zelensky. Et il verra ce que Zelensky lui répondra. Et en effet, l'urgence, c'est d'aider au maximum l'Ukraine. Sinon, qu'est-ce qui se passera lorsque une autre grande ville tombera? Qu'est-ce qui se passera si Kiev est menacé? Eh bien, moi, je pense personnellement qu'on sera obligé d'y aller, comme le laisse entendre
Emmanuel Macron,
la République, et qu'on sera obligé d'y aller avec quelques autres pays de l'OTAN.
Mais regardez,
parce qu'on ne peut pas se permettre.
Regardez ce que dit Poutine, a mis en garde lui-même la France et sa garde rapprochée avec lui. Regardez ce qu'a dit Piotr Tolstoï, le vice-président de la Douma. « Quand vos soldats vont revenir dans des cercueils couverts par le drapeau tricolore, je ne crois pas, Patricia Lémonière, dit-il, que les Français seront contents. »
Oui, ça c'est de la rhétorique. Hein. On a la rhétorique de ce monsieur, on a aussi la rhétorique de Medvedev. Bon, il faut le prendre pour ce qu'il en est. Je crois que pour répondre à la question sur le front, les Ukrainiens sont épuisés, ça on le sait, ils n'ont pas d'armes. Qu'est-ce que vont faire les Russes maintenant? Est-ce qu'ils vont profiter finalement de cette victoire et pour lancer leurs dernières troupes, même si elles sont affaiblies, parce qu'on le sait qu'elles sont... Elles ont quand même perdu beaucoup d'hommes, hein, sur Advika, 16 000 hommes, etc. Quand même. Donc, est-ce qu'elles vont quand même faire un dernier effort pour pousser? On voit que là, le président russe a laissé passer plein un décret comme quoi il pourrait mobiliser 300 000 hommes, mais où? Dans ces fameux nouveaux territoires. Tous ces gens du Donbass et autres et pourraient être mobilisés. Et alors là, il va les mobiliser très vite. Qu'est-ce qu'il veut avec cette mobilisation, si elle est accélérée? Est-ce que c'est enfoncer avant que la Rasputitsa, comme on le dit très bien, la boue qui se répand sur toutes les routes, existe? Ou finalement, c'est profiter de ça et taper sur Odessa? Parce qu'on voit beaucoup, il y a un énorme effort actuellement qui est fait sur Odessa. Et là, je pense qu'il faut être inquiet et qu'effectivement, il faut se mobiliser pour faire que ces 800 000 obus qui traînent dans le monde arrivent au plus vite.
Yegor Grand.
Est-ce que vous pensez justement, là, est-ce que là aussi, il faut qu'on soit très lucide, Emmanuel Macron a dit une intervention, pourquoi pas, peut-être aussi veut-il prendre ce leadership américain, voire européen, voire au-delà, dans la perspective d'une possible élection de Donald Trump également?
Il a bien raison. Moi, je dirais que c'est à nous maintenant de dessiner par terre les fameuses lignes rouges. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait l'impression, depuis 2 ans, que c'est le Kremlin qui trace des lignes rouges, disant voilà, il faut surtout pas qu'il y ait des soldats de l'OTAN présents sur place. Il faut surtout pas qu'il y ait des missiles longue portée. Il faut interdire à nos missiles de frapper en Russie, etc., etc., etc. Moi, je pense qu'il faut que l'initiative change de camp et que c'est à l'Occident de mettre des lignes rouges et de les faire respecter, d'ailleurs, parce que ça, c'est très important. Je constate, par ailleurs, qu'il ne faut pas prendre pour monnaie comptant, pour argent comptant, pardon, ce que déclare Piotr Tolstoï et les autres qui sont là en position...
Dans une surenchère.
Oui, retenez-moi, je fais un malheur. Oui. Je constate que depuis 2 ans, pas un seul chargement militaire de l'OTAN, pas un seul avion, cargo, train n'a été saboté, attaqué, coulé dans des eaux internationales ou autres. On sait très bien, évidemment, qu'il y a du matériel occidental qui va en Ukraine. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Russes font très attention à ne pas le faire. Et ils marchent sur des œufs aussi. Donc, il faut qu'ils nous craignent, ils nous craignent déjà.
Ah bah écoutez, alors voilà, c'est une conclusion dont on se satisfera ce soir pour ce débat. Merci à tous les trois d'avoir exploré notre question du jour autour des conséquences et de différentes hypothèses suite à l'élection de Vladimir Poutine.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.